Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. Aujourd'hui, eh bien, on va se poser la question: comment rester actif, heureux et en santé à l'automne? Vous savez, cette espèce de petite mini-dépression qu'on a parce que le soleil se couche plus tôt, parce qu'on reprend nos habitudes, parce qu'il y a des feuilles qui sont tombées, bientôt il y aura des flocons. On n'a pas envie de sortir, c'est difficile. La gymnastique le matin, le soir, et c'est normal, mesdames, messieurs. Alors, on va parler de tout ça. Pourquoi? Comment s'en sortir? Comment se donner un coup de pied, puis se dire on est correct et il ne faut surtout pas lâcher? Alors, on va faire 60 minutes de réflexion avec des spécialistes. Aujourd'hui, nous aurons, dans un premier temps, Jérémy Provost de l'organisme Revive qui va s'occuper du côté mental. Hein. Je vous en ai parlé de ça. Il ne sait pas, c'est vrai, il y a des gens qui ont des dépressions, il y a des gens, ça ne va pas. Et des fois, ça revient à chaque automne. Pourquoi ça revient à chaque fois qu'on a moins de soleil? Il va répondre à toutes ces questions, bien évidemment. Jean Lemonde, directeur général de Zone Loisirs Montérégie, sera là également à notre émission. Et puis, comment se nourrir? Comment faire la cuisine, puis trouver ça sympathique, puis se faire en même temps des amis? Alors, autrement dit, bien manger, économiser et socialiser en même temps. Donc, nous aurons Nathalie Langteau. On va aller à Québec, du centre Le Bourgeois. C'est dans le quartier Saint-Roch de Québec. Et puis, la gymnastique, personnes âgées, à l'automne aussi, elles sont isolées. Comment faire pour socialiser, avoir des amis, se sentir en forme et tout ça? On va parler avec Danny Prudhomme, directeur général de la FADOC. Et notre coup de chapeau, eh bien, ce sera l'Association de développement des arts martiaux adaptés, Ben Valkenburg, qui est membre du CA, qui sera dans nos studios de Canal M. Ça commence tout de suite. Jean-Rémy Provost, notre premier invité, le directeur général de Revivre. Monsieur Provost, bonjour.
Bonjour.
Quand je disais que l'automne, c'est normal, on se sent un petit peu, on les batteries à terre, est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que c'est dans les statistiques qu'à l'automne, on commence à être un petit peu déprimé?
Ben en fait, oui, on peut dire qu'à l'automne et l'hiver, il y a à peu près 15% de la population qui peuvent avoir un blues. Donc, un blues automnal, un blues de l'hiver, donc il y a moins de lumière, on se réveille le matin, il fait encore noir. Bon, ça nous rentre un peu dedans, mais à la différence qu'on est capable, par contre, de vaquer à nos occupations quotidiennes. Là où ça devient plus problématique, c'est lorsqu'on parle pour 2 à 3 % de la population de dépression saisonnière, qui est vraiment véritablement une forme de dépression récurrente. Qui survient toujours au cours de la même période. Mais encore là, si je veux suivre votre émission positive, c'est qu'il y a moyen, même si on est atteint de dépression saisonnière, d'avoir un traitement qui fonctionne relativement bien et qui peut nous permettre de ne plus avoir cette déprime saisonnière-là.
Alors, quand on distingue donc deux dépressions, la petite déprime et aussi la saisonnière. Dans la petite déprime, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est normal, bon, on a parlé du manque de lumière, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser? Est-ce qu'on va directement dedans, on pleure, on regarde des films tristes? Qu'est-ce qu'on fait quand on a cette petite déprime?
Bien, quand on a une petite déprime, contrairement à la maladie, à la dépression saisonnière, c'est que cliniquement, on demeure réactif. Donc, on est capable de contrecarrer ça et d'aller faire une sortie en plein air lorsqu'il fait soleil. Bon, c'est pas le soleil du mois de juillet, mais quand même, donc de se baigner de lumière, de faire des sorties, de faire des marches, de faire en sorte qu'on se ressource, d'organiser un souper entre amis, donc pour vraiment se sortir de cette petite humeur dépressive qu'on peut avoir, qui est tout à fait normale, mais si on prend soin de nous, puis qu'on on y fait face, on peut vraiment assez facilement s'en sortir,
mm-hmm.
en autant d'être dans l'action, en autant de ne pas se morfondre, puis de vraiment passer à l'acte et de vraiment d'aller chercher la lumière là où elle se trouve.
Donc, la lumière chez les amis, si je comprends bien, puis la lumière physique aussi.
Oui, au propre comme au figuré.
C'est ça, exactement, mais aussi, si je comprends bien, éviter d'être seul.
Éviter d'être seul, de vraiment de se trouver autour de gens qui vont vraiment vous faire du bien, qui vont vous donner du bien,
mm-hmm.
Qui vont vraiment vous apporter quelque chose de significatif, autant au plan personnel qu'au plan du travail, par exemple. Donc, si c'est possible d'y aller avec des projets qui vont vraiment vous stimuler.
Mm-hmm.
La musique vous passionne, ben d'écouter un peu plus de musique, mais c'est effectivement de sortir un peu d'un effet qui pourrait devenir pervers en s'isolant, parce que le propre de la dépression, quelle que soit sa nature, il y a un effet presque inévitable de s'isoler,
oui.
et de vraiment se renfermer, de ne plus vouloir aller vers les autres.
Un peu comme font les animaux quand ils sont malades, ils s'isolent dans un coin, c'est comme ça qu'on sait qu'ils sont malades, parce qu'ils ne peuvent pas nous le dire autrement que de se mettre en petite boule dans un garde-robe.
Tout à fait. Il ne faut jamais négliger la force de l'entraide, quel que soit l'objet. Ça peut aller jusqu'à la maladie, mais ça peut aller jusque dans les moments où, justement, il y a moins de lumière, c'est plus sombre, on appréhende le mois de novembre. Bon, ben il faut se poser la question, ça ne viendra pas de l'extérieur, ça va venir de nous. Donc,
mm-hmm.
on est au centre des décisions nous concernant. Donc, allons-y avec des décisions qui vont vraiment faire en sorte qu'on va sortir de cette noirceur-là.
Là, alors, celle-ci, on l'appelle la petite. Maintenant, la vraie dépression saisonnière, elle revient... Et c'est celle-là qui nous fait plus peur, parce que si elle revient à chaque saison, c'est-à-dire soit à l'automne, on ne parle pas de l'été, hein, les gens
ouais.
sont assez contents d'être sur les terrasses et tout, ça se fait naturellement, mais comme l'automne. Quelqu'un qui se rend compte que finalement, dès qu'elle reprend le travail, les études, le train-train quotidien, et là, il y a quelque chose qui revient et qui revient, et ça peut même aller loin. Donc, ça s'appelle la dépression saisonnière.
Exactement. Donc, c'est une forme de dépression récurrente. Donc, qui survient toujours au cours de la même période. Il y a un début régulier entre la première semaine d'octobre et la fin novembre, et ça va jusqu'à la fin de l'hiver.
Mm-hmm.
Les mois de janvier et février, ce sont les mois où les symptômes s'aggravent le plus, mais ça débute à l'automne.
Okay.
Et c'est un changement par rapport vraiment au fonctionnement habituel. Et là, rentre en ligne de compte les symptômes dépressifs courants, comme une humeur dépressive, perte d'intérêt et de plaisir, perte d'énergie, ralentissement psychomoteur et tout ça, mais ce qui est particulier à la dépression saisonnière, c'est au niveau de l'hypersomnie. Donc, au lieu de souffrir d'insomnie, on va dormir beaucoup plus. Au lieu de perdre de l'appétit, comme dans une dépression majeure habituelle, on va avoir un gain de poids. On va avoir une plus grande fatigue, une plus grande nonchalance et aussi un goût pour les glucides, pour les fringales sucrées. Ça, c'est des symptômes très, très particuliers à la dépression saisonnière, mais je vous dirais le facteur numéro un, c'est la baisse, évidemment, de lumière au début de l'automne.
Mm-hmm.
Le changement d'heure affecte énormément les gens.
Oui.
Et ça va donc jusqu'à la fin de l'hiver. Et les symptômes disparaissent à partir du moment que le printemps arrive. Donc, contrairement à la dépression majeure où les gens peuvent avoir un épisode en plein été, la dépression saisonnière est vraiment marquée, comme son nom l'indique, par la saison, donc par la baisse de luminosité. Puis la cause de ça, ben c'est ça. C'est vraiment le manque de lumière qui fait en sorte que d'habitude, les rayons lumineux font leur job d'envoyer des signaux électriques au cerveau au niveau des neurotransmetteurs.
Ouais, c'est fort.
Et c'est ce qui fait que ça régularise, entre autres, l'humeur et ça gouverne la mélatonine, qui est l'hormone responsable des cycles réveil-sommeil. Donc, c'est pour ça qu'il y a des dérèglements hormonaux chez à peu près, comme je disais au tout début, 2 à 3 % de la population qui peuvent vivre cette dépression saisonnière-là.
Alors, est-ce que c'est toujours autant, mais je ne veux pas qu'on donne de chiffres, mais tout de même, on sait qu'au mois de novembre, c'est là où il y a le plus de suicides. Est-ce que c'est toujours ça, les conditions?
Bien, étonnamment, les gens pensent que c'est à l'automne, il y a plus de suicides, c'est plus au printemps.
Hein?
C'est plus au printemps, il y a toutes sortes de théories. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à l'automne, il y en a effectivement, mais c'est plus au printemps qu'il y a le plus de suicides. Entre autres choses, parce que les gens, oui, ont vécu des mois très difficiles. Je vous disais que janvier, février, c'est des mois assez difficiles. Au printemps, il y a comme un éveil, mais la personne n'est pas nécessairement encore sortie de sa dépression à 100%. Okay. Et la personne sort plus à l'extérieur. Et étonnamment, ben, au niveau de la dépression, c'est des fois ce qui peut... on peut bouger un peu plus, mais on peut avoir encore une humeur dépressive. Donc, c'est plus au printemps que des pics de suicide.
Donc, on peut, par exemple, avoir été atteint de la dépression saisonnière et que ça ne soit pas réglé. Et finalement, c'est ça, c'est arrivé le printemps, c'est toujours pas réglé. Donc, ça s'en va en empirant, finalement.
En fait, c'est que, à un moment donné, la personne, si vraiment ça ne va pas bien en janvier-février, peut avoir effectivement un risque suicidaire, comme il y en a un. Dans la plupart, dans 60% des gens qui vivent une dépression, quelle qu'elle soit. Mais à la différence de la dépression majeure, la dépression saisonnière, si on enlève l'option suicide, les gens vont, les symptômes vont s'amenuiser au fur et à mesure que le soleil va un peu plus revenir l'extérieur.
Bon. Alors, c'est vraiment relié, hein? C'est fou, l'histoire de la lumière, ça nous atteint énormément, hein?
Absolument, et c'est pour ça que le traitement, puisqu'il y a, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a un traitement qui est la luminothérapie, tout simplement. Et comment ça fonctionne, c'est que c'est une exposition à une lumière intense. Donc, on ne parle pas d'une lumière habituelle là, de 100 watts. Là. On parle
pas les petites ampoules là, qu'on a à la maison.
Non, exactement. Donc, c'est des lampes qui ont une intensité de maximum 10 000 lux. Lux, c'est quoi? C'est l'unité de mesure de l'éclaircissement lumineux. Donc, c'est des machines qu'on peut retrouver dans des pharmacies ou ailleurs. Donc, il y a des sites Internet aussi à ce sujet-là. Donc, il y en a qui sont de moindre intensité, mais les plus performantes, c'est ceux qui ont une intensité de 10 000 lux. Pour vous donner une idée, un soleil du mois de juillet, ça a une intensité de 100 000 lux.
Aïe, aïe, aïe.
Mais évidemment, on n'est pas à côté du soleil, mais donc on va vraiment avoir un effet.
On a quand même un effet avec cette dose-là, comme on dit, qui va nous redonner du pep.
Exactement. Donc, tout près de nous, donc un 30-45 minutes, idéalement entre 6h et 8h le matin. Et il y a à peu près 60 à 90% de succès, selon les recherches.
Non.
Et si la forme de dépression saisonnière elle est plus sévère, bien, on peut faire une deuxième exposition en après-midi. On peut avoir des effets après un mois, mais vraiment, pour vraiment voir des changements biologiques, bien, après 4 semaines, on peut voir vraiment ces changements-là. Donc, c'est une... Je ne dirais pas que c'est une garantie à 100% de succès, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Oui, il peut avoir certains effets secondaires. Ce que je conseille aux gens, c'est d'en parler à leur médecin et de voir vraiment si on est pour éliminer d'autres choses aussi, si on se sent pas bien présentement. Ça se peut que ce soit une dépression saisonnière, ça se peut que ce soit autre chose. Il faut aller valider ça pour en avoir le cœur net. Et si c'est une dépression saisonnière, pourquoi pas essayer la luminothérapie?
Ben, merci beaucoup, M. Jean-Rémy Provost. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Ce n'est pas le mal de vivre. Non, ça c'est réservé aux esthètes à la dérive qui jugent la déprime démodée. Je n'ai pas la gourmandise qui consiste à tout détester. C'est pas pour moi le mal de vivre, c'est beaucoup trop raffiné. Ça ira mieux demain, du moins je l'espère, parce que c'est déjà ce que je me suis dit hier. L'alarme à l'œil en automne, parce qu'elles sont mortes les feuilles, alors que je les connaissais à peine. Elles étaient même pas de ma famille. Ce n'est pas par désespoir, il faudrait vaille que vaille souffrir du matin au soir. C'est beaucoup trop de travail. ça ira mieux demain. Du moins je l'espère, parce que c'est déjà ce que je me suis dit hier. Ce n'est pas non plus du spleen, pourtant c'est toujours à la mode. Mais c'est de la déprime qui frime, le spleen, c'est beaucoup trop snob. Et c'est pas de la mélancolie, c'est dommage, ça m'aurait plu. Mais les chanteurs ont déjà tout pris, y en avait plus. Ce n'est qu'une triste compagne, une peste qui murmure. N'oublie pas que tout s'éloigne et ne reste que les pleurs.
Chanson de Benabar, Triste compagne. On va tout de suite rejoindre notre prochaine invitée. L'accès aux loisirs et au sport pour les personnes avec une limitation fonctionnelle, c'est pas évident. Puis l'automne, d'autant plus, hein, ils vivent la même chose. Faut se déplacer, c'est pire encore. Vous vous dites le matin, ben la gymnastique, c'est pas évident parce qu'il fait froid. Puis, mais on va parler de ça avec Monsieur Jean Lemonde, directeur général de Zone Loisirs Montérégie. Alors, je vous parle un peu de l'organisation. C'est un organisme qui fait la promotion de l'accès des personnes handicapées dans tous les champs d'intervention du loisir, tourisme plein air, sport, activités physiques, loisirs scientifiques, socio-éducatifs et socio-culturels. Bonjour, Monsieur Lemonde.
Bonjour.
Quand je dis que c'est pas facile, l'automne arrive, faut se déplacer, faut se mettre en forme, c'est tout un contrat, ça.
C'est tout un contrat et je vous dirais que la clientèle ou les gens que moi j'ose appeler les gens différents, mm-hmm. il y en a beaucoup. Et il y a malheureusement très peu d'offres d'activités de loisirs pour eux. Mm. Ce qui fait que je dirais que la nouvelle approche qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est plutôt que de regarder les activités de loisirs qui seraient offertes ou les activités sportives uniquement pour nos personnes différentes, mais plutôt aller voir l'ouverture dans les structures régulières du loisir et du sport pour tous.
Bon, est-ce qu'on fait de la place? Est-ce qu'il y a de l'ouverture ou il faut encore se battre en se disant ben, il n'y a même pas de rampe, il y a toujours des escaliers, c'est au troisième étage. Est-ce qu'il y a de l'amélioration?
Moi, qui est un vieux de la vieille du milieu, j'oserais dire plus de 40 ans, oui. C'est beaucoup mieux qu'avant. Bon. Il reste encore beaucoup à faire. Je pense que les organisations de loisirs pour tous sont, en règle générale, relativement ouvertes. Mm-hmm. En même temps, les associations de personnes handicapées, sportives ou de loisirs, et là, sous toutes les formes, pendant de nombreuses années, n'ont pas été cognées aux loisirs de monsieur et madame tout le monde. Mm. Donc là, il faut essayer de créer cette chimie-là mm-hmm. entre nos groupes à nous et le loisir de monsieur et madame tout le monde. Mm.
Quels sont les principaux obstacles à l'accès au loisir pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles?
Bon, écoutez, il y a toujours des questions de préjugés à l'effet que, bien des fois, il y a des gens qui vont présumer que une personne qui a une limitation fonctionnelle, et peu importe sa limitation, que ce soit une limitation physique, intellectuelle ou autre, ne peut pas faire comme les autres personnes, mmh. ce qui est faux. Bien des fois, peut-être que l'apprentissage demande un peu plus de temps, mais par la suite, ça se fait très bien. Donc, on est encore beaucoup, beaucoup dans les préjugés.
Ça ne sort pas finalement des préjugés. Mais une fois que ces préjugés sont passés, est-ce qu'il y a des difficultés à l'intérieur d'une salle? Est-ce qu'on doit revoir le tout, les machines, les descendre? Comment ça fonctionne?
Bon, écoutez, prenez à titre d'exemple. Puis là, je vais devoir... Il y a des centres d'activité physique présentement, des centres connus, là, de grosses chaînes mm-hmm. qui même reconnaissent le concept de la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs. Et en acceptant ce concept-là, ça fait en sorte que quelqu'un qui a une limitation, qui va aller s'entraîner chez eux, son accompagnateur a accès aux équipements, et ça de façon gratuite.
Bon.
Donc, on voit qu'il y a quand même de très bons efforts là, mm-hmm. qui sont faits. Là.
Mm-hmm. Alors, parlez-moi des bénéfices. J'imagine que c'est exactement comme nous. C'est tellement important, et pour le physique, mais encore plus, hein, et le moral. Qu'est-ce que les gens vous disent une fois qu'ils sont allés s'entraîner? Est-ce que ça, ils voient les bénéfices tout de suite?
Bon, écoutez, toutes les dernières études le démontrent bien, le taux d'obésité, que la mauvaise forme est beaucoup plus grande chez nos gens, à nous, chez nos organismes, chez nos participants. Mm-hmm. Donc, bien sûr que dès qu'ils touchent à l'activité physique ou au loisir pour tous, parce que on s'entend bien des fois que des gens ont des limitations physiques très, très, très sévères, mm-hmm. ne peuvent pas faire d'activité physique, mais le fait de sortir de chez eux, de se joindre à des groupes, que ce soit même, bien des fois, là, que des groupes de discussion, ça permet de changer leur vie.
Oui, hein. D'être ensemble. Et au niveau de l'automne, parce que notre sujet aujourd'hui, c'est ça, comment rester actif et heureux et en santé à l'automne, est-ce que vous le ressentez? Parmi cette clientèle, est-ce que vous voyez qu'il y a une espèce de blues? Et puis justement, ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin d'aller, de se retrouver. Le sentez-vous?
On le sent, on le voit beaucoup. Les organismes de personnes handicapées, ce que nous on appelle les associations locales ou les clubs locaux, sont en pleine activité.
Mm-hmm.
Ce qui manque à ce moment-ci, c'est peut-être de la publicité pour le loisir pour tous, de dire ben, les loisirs pour tous, c'est aussi pour vous.
Mm-hmm.
Donc, je pense que cette partie-là serait drôlement facilitante. Mais pour beaucoup de personnes, quand ils voient l'automne arriver, ils se disent c'est le tampon juste avant l'hiver où là, ça devient excessivement difficile en fonction de l'accessibilité physique.
Oui.
Bien sûr. Fait que cette saison-là, pendant la saison estivale, les gens bougent beaucoup plus, les gens sortent, les gens se promènent, font plein de trucs.
C'est ça.
Mais l'automne, c'est beaucoup plus difficile.
C'est plus difficile. Parlez-moi de, justement, zone loisirs Montérégie, ce que vous offrez, comment ça fonctionne. Moi, je serai à l'écoute, j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce qu'on m'offre? Est-ce que je peux y aller plusieurs fois par semaine? Est-ce que je peux faire du sport? Puis, parlez-moi de ce que vous offrez.
Zone loisirs Montérégie n'offre pas et n'organise pas d'activité.
Okay.
Nous travaillons avec les associations de loisirs pour personnes handicapées qui, eux, en organisent, eux, en font.
Mm-hmm.
On travaille avec des municipalités et on travaille aussi avec le loisir pour tous. Donc, comme je disais tantôt, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens sortent, que les gens aient des loisirs. Dans un premier temps, bien sûr, ils peuvent avoir un loisir adapté.
Mm-hmm.
Ce n'est pas négatif d'avoir des loisirs que pour des personnes qui ont des limitations et que ces gens-là soient ensemble. En même temps, essayer de s'assurer que le loisir pour tous leur soit ouvert.
Mm-hmm.
Vous voyez, prochainement, on s'en va dans un mini-colloque où on va inviter les associations de personnes handicapées de la Montérégie à aller cogner aux structures de loisirs pour tous. Et ça peut vouloir dire pour nos organisations, bien des fois ou pendant plusieurs années, ils ont fait que de l'organisation d'activités de loisirs,
mm-hmm.
mais peut-être que pour certains de leurs membres ou de leurs nouveaux membres, ils verront peut-être plus essayer d'organiser de l'accompagnement
mm-hmm.
pour les diriger vers le loisir pour tous.
Et là, on verra votre vignette dont vous parlez, c'est-à-dire qu'une fois qu'on voit la vignette à poser, on se dit que tout le monde est équitable, puis tout le monde a le droit et c'est sécuritaire et a le droit de profiter de ces loisirs-là.
Oui. Écoutez, si je prends le concept de la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs,
mm-hmm.
il y a présentement 1300 endroits au Québec qui reconnaissent ce concept-là. Ça passe des salles de spectacle
des salles de conditionnement physique, il y a même des centres de golf, il y a des théâtres. La nouvelle salle de la maison symphonique à Montréal est un endroit qui accepte le concept de la vignette d'accompagnement. Donc, 1300 endroits.
Bon.
Et il y a des milliers de personnes handicapées qui ont ce petit autocollant-là. Ils ont fait une demande en ligne, gratuitement. Ils vont sur le site www.votl.org. Simple, ça lui prend 5 minutes à remplir un questionnaire en ligne. Et s'ils ont une limitation et un besoin d'accompagnement, ils pourront bénéficier de ce concept-là.
Merci beaucoup. Alors, ça veut dire pas de raison de pas sortir, parce que vous organisez, vous, pour que tout le monde puisse sortir et que ça se passe très bien.
Il faut sortir avant l'hiver.
Merci, Monsieur Le Monde.
Merci.
Mesdames, Messieurs, Claudia Benoît est en studio, Canal M, sur Twitter, vous pouvez nous écrire et on va se faire un plaisir de vous lire.
Les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Notre question aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous devez vous sentir un petit peu comme ça dès que l'automne arrive. Mais comment rester actif, heureux et en santé à l'automne? Toute une question, hein? On va tout de suite parler à Nathalie Langteau, elle est du centre Le Bourgeois, quartier Saint-Roch à Québec. Et justement, ils font des choses assez chouettes qui nous sortent de nos cuisines, puis on a envie de rencontrer du monde, faire des bons petits plats, puis se faire des nouveaux amis. Alors, elle est avec nous. Bonjour, Madame Langteau.
Bonjour.
Je disais que vous faites des choses chouettes, c'est-à-dire que vous rassemblez des gens dans votre organisme. Racontez-moi comment ça se passe et qu'est-ce que c'est qu'une cuisine collective?
Écoutez, c'est ça ici, la mission principale du Centre Le Bourgeois, c'est les cuisines collectives. En fait, c'est des gens qui se rassemblent ensemble une fois par mois. On reçoit des denrées de Moisson Québec. Et puis, face à ce qu'on a reçu, les gens décident ensemble en équipe de 5, 6, 7 personnes de qu'est-ce qu'ils vont cuisiner par rapport à ça.
D'accord. Alors, donc, ils se rejoignent une fois par mois. Est-ce qu'on leur dit quoi faire? Où ça se passe sur place? Racontez-moi qui fait le marché. Vous avez dit que vous avez des organismes qui vous donnent des denrées, mais comment ça se passe à l'intérieur?
OK, ben c'est ça. Après avoir reçu nos denrées de moisson, là, on épluche nos circulaires d'épicerie.
Mm-hmm.
Bon, comme cette semaine, la poitrine de poulet est en spécial, donc les gens, j'ai une équipe là, justement qui est en train de faire ça, leur choix aujourd'hui, ils ont décidé de faire du two-man. Donc, il y a une de personnes de mandatée
okay.
pour aller faire l'épicerie. Et puis, ils vont se retrouver ici jeudi matin et puis ils vont cuisiner ensemble là, 4 repas. Principal, une soupe et un dessert.
Mm-hmm.
Ça leur coûte en moyenne 10 $.
Okay.
parce que c'est ça, ils sont 6 dans cette équipe-là, fait qu'ils vont cuisiner ensemble, ils font 60$ d'achat, puis ils repartent chez eux avec 3-4 repas de chaque. Donc, ils repartent chez eux avec une vingtaine de repas cuisinés.
Bon, alors qui forme cette clientèle-là? Est-ce que parce que je sais pas, là, c'est pas tout le monde qui est doué au niveau de la cuisine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit bon non, ça, tu mets le poulet, tu le cuis à ça? Est-ce que ça se fait ensemble? Est-ce qu'on s'échange des recettes, des trucs?
Oui, c'est vraiment communautaire. Je veux dire, il n'y a pas personne pour bon, je suis là pour donner mon aide, là, pour donner des conseils puis tout ça, mais il n'y a pas personne qui décide lui-même, là, ben là, on fait ça. C'est vraiment tout le monde ensemble qui prenne les décisions pour que ça soit santé, que ça soit rapide et économique, en fait. Et puis, le but principal, la plupart des gens qui viennent au Cuisine Collective, c'est les gens qui sont seuls à la maison. Mm. Donc, c'est une façon de sortir. On a aussi des activités, on fait on souligne les anniversaires, là, comme Pâques, Noël, on a toujours un rassemblement de tous nos membres là, qui viennent pour des occasions comme ça. Là. Ça crée une vie sociale, un petit noyau d'amis sur qui les gens peuvent compter puis avec qui ils peuvent échanger en même temps. Là.
Les conversations, c'est un petit peu comme dans le temps de l'émission de Jeannette Bertrand. J'imagine que pendant que les gens cuisinent, ça discute pas mal. Est-ce que ça doit être assez intéressant, les discussions, non?
Exactement. Puis on a toujours des repas communautaires. Je veux dire, quand les gens sont ici pour la journée. Mm-hmm. Donc, on se retrouve à table une dizaine de personnes, puis on échange sur des recettes, on échange sur nos vies personnelles. On donne des groupes. J'ai même des groupes de jeunes mères monoparentales qui viennent puis qui sont fait un réseau de gardiennage entre eux autres. Là. C'est vraiment...
Donc, ça va au-delà de ça. Ils s'échangent les adresses et puis ils se sentent moins seuls. Donc, c'est pour contrer l'isolement puis ça fonctionne vraiment.
Ah oui, ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment. Les gens, ils ont un sentiment d'appartenance avec leur groupe et puis... C'est très convivial. Là.
Est-ce que vous pensez que ces gens-là, dès la première rencontre, est-ce qu'il y en avait qui mangeaient moins bien? Bon, évidemment, il y a toujours la pauvreté qui est là, mais le fait aussi d'être seul, puis on n'a pas envie de manger tout seul chez nous, puis il y a une différence. Est-ce que vous avez des témoignages à ce niveau-là de gens qui vous disent, ben, grâce à votre organisme, Centre Le Bourgeois, je me nourris mieux, je suis moins seule. Est-ce qu'il y a ça aussi?
Ah oui, effectivement, les gens mangent. Ben, regardez, vous êtes chez vous seul, vous n'avez pas envie de vous faire cuire une dinde. Hein?
Non.
Quand on est 6-7, ben on se fait cuire une dinde, puis on peut tout le monde en profiter. Puis en même temps, ben quand tu es chez toi, puis que tu ouvres ta porte de frigidaire, puis tu dis qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, puis que tu es tout seul, ben que t'as comme pas envie de t'en faire.
Mm-hmm.
Tandis que là, ben c'est déjà tout prêt, puis j'imagine que les gens se recommémorent les bons moments de toute façon en mangeant et pensant, ah oui, c'est vrai, c'était le fun, on a fait ça.
Mm-hmm.
Puis, c'est vraiment une bonne manière de briser l'isolement parce que mes groupes sont multiples. Là. J'ai, oui, des gens seuls, j'ai des aînés aussi, j'ai un groupe de personnes en déficience intellectuelle qui vient faire à manger aussi. C'est vraiment multiple comme diversité. Je veux dire, les groupes sont vraiment, c'est pas homogène, c'est vraiment des groupes où on apprend à connaître les autres et à accepter leurs différences. Là,
et au niveau de l'estime d'eux-mêmes?
Ah, ben ça, c'est génial.
Ça remonte?
Oui, ça remonte, c'est génial parce que j'essaie toujours de donner des responsabilités à chacun. Donc, on part des fois à petite échelle, des fois c'est des gens qui sont très gênés, mais ça vient tranquillement, ça prend 2-3 rencontres, puis on le voit que les gens, ils sont plus à l'aise, ils sont plus... Ça fait vraiment un plus pour l'estime de soi, effectivement, oui.
Au niveau des denrées, on a vu, nous, on a appris ce matin à Montréal qu'il y avait un organisme qui s'occupait justement de bien nourrir les gens dans le quartier qui va fermer. Est-ce que vous, à Québec, vous avez de la difficulté ou ça fonctionne? Vous êtes parce que c'est pas évident de se retrouver comme ça, de la nourriture. Bon, il y a beaucoup de groupes. Est-ce que ça, les gens sont là pour vous donner suffisamment?
Pour les gens, oui, les gens donnent suffisamment. C'est sûr que de ce temps-ci, c'est au niveau gouvernemental que c'est plus difficile d'avoir du financement récurrent. C'est sûr que c'est des besoins qui sont essentiels. Ici, dans le quartier Saint-Roch, là, c'est le quartier où il y a le plus de HLM à Québec. Là,
ouais,
c'est un quartier qui est vraiment défavorisé.
Ouais.
Et puis, mais ça fait vraiment une différence parce que Parce que c'est ça, les gens, ils ont de quoi pour remplir leur frigidaire. Au moins, ce besoin-là est comblé, là. Mmh. Et puis, mais oui, c'est difficile économiquement pour tous les organismes. Nous, on a la chance d'avoir la Congrégation Notre-Dame, qui est une généreuse donatrice, là, qui nous permet de rester tout ça à flot, là. Mais oui, c'est difficile pour le financement de ce temps-ci. C'est très difficile.
Alors, notre question du jour, on parlait du blues, si on veut, de l'automne. Est-ce que vous le ressentez, en terminant, est-ce que vous le ressentez dans votre organisme quand arrive l'automne? Bon, ces gens-là sont conviés une fois par mois, mais ressentez-vous cette espèce de blues? Puis heureusement que vous êtes là parce que ça, il y a les gens qui ont moins de sourires, puis un peu la larme à l'œil. Est-ce que vous le ressentez?
Ah oui, c'est toujours plus difficile quand l'automne arrive, quand tu commences à faire plus froid. Ici, on a même une clientèle de presque sans-abri. On a un groupe de personnes chambreurs qui, en fait, passent leur temps dehors, à l'extérieur, puis qui rentrent chez eux seulement pour dormir parce que tu peux pas rester dans une petite chambre confinée toute la journée, là. Mmh. Et puis, on voit vraiment que à l'automne, nous, on est fermés septembre, on est fermés en août. Et puis, septembre, là, quand ça revient, puis au fur et à mesure, il y en a qui sont pas revenus en septembre, mais là, ils commencent à revenir. Là, il fait plus froid, ils ont plus besoin de contact, ils ont plus besoin de...
Bon.
Effectivement.
Alors, vous le sentez, l'espèce de blues. Mais heureusement que vous faites des bons plats et que tout le monde puisse retrouver même des amis. Hein. J'ai l'impression que, vous l'avez dit vous-même, ça se poursuit après. C'est ça qui est extraordinaire, là, de briser l'isolement puis que les gens continuent à se fréquenter par la suite.
Oui, puis à se sentir soutenu par les autres membres de leur équipe aussi, je veux dire. Excusez, des fois, il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas venir à leur cuisine. Les restes des gens sont de leur groupe cuisine pour eux. Mmh. Puis,
ils vont apporter les repas, c'est
ça? Oui, il y a vraiment une entraide là, qui se crée, là, puis des liens qui se créent entre nos participants.
Ça fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup, Mme Langteau. Merci pour ce que vous faites.
Merci, bonjour.
Méchant mélange d'ange, remélange. Reste comme t'es, j'aime comme c'est. Avec toi,
avec toi les nuits sont fauves. Fille, or, ange étrange, je me lance les yeux clos avec toi. Fille, kaléidoscope, triplibipsychotrope. Méchant mélange, méchant mélange d'ange, méchant mélange d'ange, remélange. Restante, j'aime comme c'est.
Alors, nous sommes en studio avec notre invité, c'est notre coup de chapeau. Il est donc membre de l'Association du développement des arts martiaux adaptés, Ben Valkenburg. Et il est avec nous en studio pour nous parler de son organisme et pourquoi. Bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être en studio avec nous. Parlez-nous un peu de votre parcours. Pourquoi avoir fondé et être venu à cette organisation?
Oui, merci Sophie. En fait, je suis parent d'un enfant avec un syndrome d'Asperger. Mm-hmm. Et de façon personnelle, j'ai cherché des clubs de sport de mon enfant. Je trouvais ça important qu'il se développe de façon physique aussi, motricité. Au début, on ne sait pas trop parce que c'est nouveau. On réalise dans des clubs de sport réguliers, même si on choisit un volet qui est assez accessible, on réalise que notre enfant a des difficultés à faire un sport d'équipe ou même en équipe, on se compare souvent avec des autres. Même, un sport individuel, on va se comparer. Quoi.
C'est vraiment ce qui est le plus difficile. Là, on voit même les parents en arrière. Là, la compétition est liée sur le terrain, dans les estrades. Donc c'est difficile de se faire une place déjà comme ça, entre guillemets, avec quelqu'un qui a toutes ses mobilités. Ouais. Donc vous étiez à la recherche.
Oui, donc pour éviter effectivement l'exclusion, en fait, j'appelle ça, c'est pas volontaire, mais par la force des choses, on sent notre enfant qui est un peu à côté et à chaque fois, ça donne un petit coup à son estime de soi. Et c'est pour ça que je suis tombé en tant que parent sur sur un club qui s'appelait Karated. Donc, on était très intéressés par déjà le titre.
Ben oui, expliquez-moi ce que c'est que le titre aux auditeurs et auditrices.
C'est un jeu de mots avec, effectivement, le karaté et le trouble envahissant de développement.
Uh-huh.
C'est un club qui est fondé par Mohamed Jelassi et vraiment, il adapte le karaté à ses élèves et pas l'inverse.
Ah, uh-huh. Très bien. Et donc, il va vers sa clientèle. Il va s'adapter, sa méthode, il va y aller avec les capacités de chacun, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et il se base aussi sur la méthode Teach, qui est bien connue dans le domaine d'approche, disons, avec des enfants autistes. Mm-hmm. Parce que maintenant, on ne parle plus des troubles envahissants de développement, mais plutôt le trouble du spectre autiste. Mm-hmm. Donc le titre, on n'a pas ajusté, mais ça a changé aussi.
Ouais, ouais.
Mais ça, ce qui m'a vraiment épaté, qu'il y a une approche intégrante pour l'élève et aussi pour le parent.
OK.
C'est pas séparé. Donc
très bien.
On en amène, c'est même pas... pour le parent, c'est pas un moment de répit. On demande de s'impliquer davantage parce qu'au sein de l'entraînement ou au sein du club, on a besoin aussi de compétences et le savoir du parent. Par exemple, si on commence à travailler avec le jeune de kata, de figure de style en karaté, il faut qu'on sache d'avance si l'enfant est à l'aise, par exemple, d'avoir une petite correction avec manuel, disons, avec qu'on indique avec les mains, tu sais, comme il faut placer son bras comme ça.
C'est
comme
ça.
Comme ça. Ouais. Il y a des autres, vous connaissez bien, les enfants autistes qui sont moins à l'aise d'être...
Oui, oui, il y a différentes formes d'autisme. Il y a ceux qu'on peut approcher et ceux qui ne supportent absolument pas une main sur un visage. Donc, il faut connaître ça, effectivement.
Ouais. Exact. Il y a des enfants qui réagissent mieux sur des consignes verbales, des consignes verbaux, je veux dire, ou d'autres consignes. Donc, c'est ça qui est important d'impliquer les parents.
Alors, donc évidemment, vous, votre fils, vous saviez qu'il aimait le karaté avant tout. Comment vous avez... Parce que même les parents, on se dit, on va essayer, peut-être qu'il va aimer ça, puis peut-être qu'il va pas... Vous le saviez qu'il aimait ça?
Oui, c'était toujours... chaque enfant a son champ d'intérêt particulier. Mm-hmm. Et pour mon fils, c'est notamment des autres cultures. Dès qu'on commence à lui parler de Japon, il est très avide à connaître les termes et la culture.
En plein dedans, là.
En plein dedans. Ça l'accroche, quoi. Okay. Mais comme beaucoup des enfants autistes, je pense que c'est la puissance de rester à la maison ou d'être derrière un écran, c'est puissant. Ouais, donc, il faut trouver une porte d'entrée pour les motiver à faire une activité physique.
Bouger, tout à fait.
Et c'est ça, il faut l'utiliser, cette momentum, cette champ d'intérêt pour l'amener à développer sa motricité, son coordination, d'être aussi en dehors et d'être avec d'autres enfants dans un contexte qui n'est pas menaçant.
Non, et là, vous ne le lâchez pas, si je comprends bien, le karaté. Mm-hmm. Vous êtes avec le professeur, vous apprenez le langage, qu'est-ce que c'est que le karaté, et dans la pièce, vous êtes où à ce moment-là?
Nous sommes les parents, en général, ils se comportent dans le cours comme apprentis aussi. Ils se mettent à côté de leur enfant ou avec les autres, pendant le cours régulier, disons, pour les élèves. Et là, on fait nos exercices et certains parents qui ont le goût d'aller plus loin, ils peuvent suivre aussi un cheminement d'assistant-entraîneur, comme j'ai fait. Et à ce moment-là, Mohamed Yalas, il dédie un cours spécial pour faire avancer ces parents-là, autant dans l'accompagnement, autant que dans l'art martiaux elle-même, parce qu'il faut aussi augmenter le niveau de compétences.
Oui, parce que ça change. Hein.
Ça change, il y a des ceintures, oui, tout à
exactement.
Fait.
Exactement. et la transformation avec votre fils, depuis qu'il va dans ses cours de karaté, avec vous, avec ce maître qui est là, et qu'il faut le dire, qui a une sensibilité. Et aussi une patience de refaire les choses, peut-être plus lentement, parce qu'on sait que karaté, c'est rapide.
Alors,
la transformation, comment vous la ressentez?
Oui. Premièrement, il faut que je souligne qu'on va au rythme de l'enfant aussi. Il n'y a pas, par exemple, avec beaucoup d'élèves, il n'y a pas de combat. C'est ce qu'on appelle le comité.
Oui, oui.
C'est plutôt des figures de style, de motricité, de souplesse.
Les katas, justement,
c'est idéal parce que beaucoup d'enfants tiennent à une certaine une routine, donc ça amène une routine. Donc, on travaille avec des élèves, surtout sur l'estime de soi. C'est très important. Mm-hmm. Chaque fois qu'on souligne qu'il y a un avancement dans leurs compétences, dans la motricité, dans leur comportement aussi. C'est mon fils, il est maintenant 15 ans, donc à un moment donné, on voit qu'il se sent plus sûr de lui, il maîtrise plus, il apprivoise en fait ses forces, son corps. Souvent, les gens, ils ne sont pas en connexion avec le corps et ça donne beaucoup.
Vous le sentez plus habile avec son corps?
Tout à fait,
plus
à
l'aise?
Moi, je vois à la maison, souvent, la signature d'un enfant dans le trouble spectre autiste est souvent liée à un manque de motricité fine. Donc, il fait des dégâts à la maison et souvent, il y a une attention aussi qui joue un rôle. Mais je vois dans notre quotidien, ça a amélioré beaucoup, beaucoup.
Alors, ben écoutez, merci beaucoup. En terminant, ça serait important, Monsieur Valkenburg, de donner l'adresse sur Internet où on peut, justement, il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent continuer à faire du sport, surtout du karaté, et accompagné avec les parents, c'est extraordinaire. Et il y a vraiment des fruits à ça. Hein.
Oui,
alors oui, donnez l'adresse, s'il vous plaît.
Oui, c'est l'Association des arts martiaux adaptés. On peut trouver l'ADAMA, courte, sur Facebook, où il y a un site web. Et plus important, c'est pas juste pour des parents ou des accompagnateurs. On vise aussi des autres clubs des arts martiaux pour les accompagner à rendre le sport plus inclusif pour des enfants handicapés.
Merci. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite à notre prochaine invitée. Donc, on parle cette fois-ci des aînés, l'isolement avec les aînés. Ça arrive à l'automne et c'est souvent, et il faut vraiment bouger, faire quelque chose. Dany Prudhomme, directeur général de l'AFADOC, est avec nous. Bonjour, Monsieur Prudhomme.
Bonjour à vous.
Ça va bien?
Ça va bien, merci, et vous-même?
Oui. Alors, comment on fait, justement, chez les aînés pour bouger à l'automne? On en a parlé. Je pense que tous nos invités sont en accord pour dire qu'il y a un blues qui est là, qui est récurrent, qui revient dès qu'il fait un peu plus froid, dès que les feuilles tombent par terre. Comment ça se passe chez vous à l'AFADOC? Vous le sentez aussi, ce blues-là?
Ben, en fait, un peu, parce que dans le cas où il y a des activités à l'extérieur, bon, les gens, soit, c'est sûr que notre corps s'adapte à la longue, au froid qui s'en vient et qui commence des fois assez drastiquement. Mais sinon, il y a des gens qui, pour tout ce qui se fait à l'extérieur, hésitent quand les froids arrivent à cause de glace, à cause de différentes choses comme ça, qui peuvent devenir dangereux pour des blessures. Donc, c'est sûr qu'on favorise beaucoup plus de notre côté des activités intérieures. Et on essaie de joindre l'utile à l'agréable. On a aussi beaucoup de municipalités qui font plein de choses en ce sens, ce qu'on appelle les fameux super centres d'achat qui vont ouvrir leurs portes soit de bonne heure le matin ou dans certains jours de la semaine ou encore la fin de semaine pour que les gens puissent aller marcher à l'intérieur du mail.
C'est pas mal ça, parlez-moi de ça. Donc les super centres d'achat, c'est-à-dire qu'ils vont marcher à l'intérieur, comme ça ils sont à la chaleur puis protégés, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, comme on sait que les centres d'achat intérieurs ont quand même de grandes surfaces, avec quelques ailes, dans certains cas, différentes, il y en a qui sont ouverts, justement, soit le matin avant l'ouverture des magasins la semaine, ou la fin de semaine, mais beaucoup plus la semaine, on va voir ça. Et les gens vont pouvoir bénéficier là, de l'endroit pour marcher en toute quiétude et au chaud, surtout.
Alors, les personnes, les aînés, est-ce que c'est difficile de les faire bouger et quelles sont leurs préférences au niveau des sports et puis qu'est-ce qu'ils vous disent une fois qu'ils sont embarqués?
Ben écoutez, je pense que c'est comme un peu tout le monde, c'est de trouver l'activité pour laquelle on a une passion. Ou à tout le moins qu'on aime et qu'on trouve ça agréable de faire. Ça, c'est une première chose. Faut pas hésiter d'explorer. C'est ce qu'on essaie avec notre offre de notre côté dans nos 840 clubs locaux à travers la province. Essayer de réinventer, comme on dit, l'offre, de s'assurer qu'on amène aussi des choses en démonstration. Comme on le fait d'ailleurs dans nos jeux provinciaux, on amène toujours des disciplines de démonstration pour faire connaître aux gens en suivant les tendances de ce qui peut se passer ailleurs, d'essayer, je pense que c'est la meilleure chose aussi. Et bien évidemment, c'est toujours d'impliquer les gens, parce que quand les gens aiment ça, ben, il y en a beaucoup qui vont vouloir s'impliquer soit pour organiser, soit pour être le chef de groupe, qu'on va dire, de l'activité. Donc, c'est de trouver des collaborateurs là, qui peuvent, des pairs qui peuvent sensibiliser leurs pairs à leur tour.
Là, j'ose vous demander quels sont les sports à la mode, qu'est-ce qu'ils aiment en ce moment, parce que je trouve ça intéressant, vous avez dit on essaye de proposer des choses, puis c'est chouette parce que ça vous innovez. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment, les aînés en ce moment, comme sport? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites, on ne s'attendait pas à ça, on a proposé ça, puis finalement, ça marche, il y a des inscriptions. Quelles sont les tendances?
Ben écoutez, je pense que je pourrais vous dire presque autant d'activités que de notre côté d'organisation qui en organise, donc de clubs qui en organisent. Mais je vous dirais les choses, on peut scinder en deux créneaux. Mm-hmm. Il y a des gens qui veulent continuer à compétitionner.
Okay.
De façon amicale, donc vraiment s'embarquer pour essayer de gagner dans une compétition. D'ailleurs, c'est nos Jeux provinciaux cette année, on était à Victoriaville et il y a une dame qui avait commencé ce qu'on appelle la marche rapide, la marche prédiction, donc deux disciplines là, différentes, mais quand même, et qui, elle, c'était l'esprit de compétition. Donc,
okay.
de gagner, dans le fond, là, quand on dit ça. Mais il y a le côté loisir qu'il ne faut pas oublier. Donc, loisir plus détente et qui ne veut pas nécessairement dire qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts, mais qu'il n'y a pas de compétition. C'est beaucoup
okay.
plus amical.
Alors, ces deux choses-là.
C'est ça. On va retrouver quand même des clubs de marche, ce que je disais tout à l'heure.
Ouais, l'intérêt des centres d'achat. Ça. Ben oui.
Oui, tout à fait.
Merci.
Parce que c'est vraiment une activité qui est probablement la plus facile pour le corps.
Oui, merci donc, beaucoup, on doit y aller. On se reprend, M. Prudhomme, merci infiniment.
Il n'y a pas de problème.
Merci.
À vous.